France Musique. Musicopolis. Jamais sans musique, le siège et la commune de Paris. Chapitre 3, le siège dur. Ah, comme la vie a changé à Paris entre juillet et novembre 1870. Cependant, l'être humain est essentiellement adaptable. Parisiennes et parisiens se sont donc adaptés. Des scènes qu'on découvrait en septembre deviennent habituelles en novembre et décembre. Le ballon, par exemple, est devenu un élément du paysage parisien nocturne. Francisque Sarcey nous fait vivre le départ. La nacelle est fixée. On entend le sacramentel « lâchez tout ». Le ballon s'élance d'un bond. Il penche sous l'effort du vent, qui le courbe avec violence. C'est une seconde d'émotion inexprimable. Nous sommes tous là, retenant notre souffle, les yeux fixés sur cette masse noire qui se rabat dans une convulsion effroyable. Sera-t-elle brisée ? Non. Elle s'élève, et à peine le ballon a-t-il dépassé le toit vitré de la gare, que déjà la nuit s'est refermée sur lui. Il se fond en quelque sorte dans l'obscur brouillard. « Adieu, adieu !» nous crient les voyageurs. Et nous leur répondons par des souhaits de bon voyage, en agitant nos chapeaux. « Vive la France !» La grande affaire ces jours-ci, écrit Juliette Adam, ce sont nos ballons, nos chers ballons. Ne vont-ils pas porter en province l'assurance de notre résolution ? Ma fille recevra de mes nouvelles. Des lettres pleines de tendresse, d'amour, de patriotisme descendront du ciel sur les chers absents. Pourvu qu'il ne tombe point dans les lignes prussiennes. Il est question aussi de nouveaux moyens de communication. Il s'agirait d'introduire des dépêches réduite par la photographie dans un tube en plume qu'on attacherait à la queue d'un pigeon voyageur. Le brave petit facteur apporterait de grosses cargaisons sous un petit volume. Il irait à Tours en ballon et reviendrait chargé de dépêches. Sa famille, son frère lui-même, l'aima-t-il d'amour tendre, l'approuverait d'entreprendre ce voyage en lointain pays. Il y a eu beaucoup de concerts à Paris à la réouverture des salles fin octobre 1870 et pendant le mois de novembre. Et puis, tout ce qui est manifestation purement musicale se fait plus rare. La plupart des musiciens des orchestres sont des jeunes gens qui doivent se soumettre aux lois militaires. Beaucoup sont donc éloignés de Paris. D'autres défendent les villes toutes proches ou bien assurent le service des remparts. Il devient de plus en plus compliqué de réunir un orchestre et d'assurer répétitions et concerts. Cependant, quelques grands événements ont lieu, proposant des œuvres de haute portée morale et toujours au bénéfice de bonnes œuvres. Après le Requiem de Cherubini à la Madeleine, c'est celui de Mozart qu'on entend à Saint-Roch fin novembre. Dès la fin du mois de novembre 70, Padelou a dû arrêter ses concerts populaires. Mais si les grands concerts se font rares, en revanche, l'opéra et la comédie française, avec leurs troupes stables, arrivent à donner chacun deux représentations par semaine. Pour ceux qui jouent le soir, il faut faire vite, puisque tout établissement public doit être fermé à 10h30. Mais comme le dit le Ménestrel, la recommandation était inutile. Les rues de Paris, absolument dépourvues de gaz et éclairées de très loin en très loin par une maigre lampe à pétrole, étaient trop sombres, une fois fermés les quelques magasins qui subsistaient encore, pour qu'on pût prendre plaisir à les parcourir la nuit. Les soirées de l'opéra continuent à faire la part belle au répertoire de la maison, avec de grandes scènes à résonance patriotique. Mais les choix ne sont pas toujours bien pris. C'est ainsi qu'un journaliste proteste lorsqu'on donne « La bénédiction des drapeaux » du siège de Corinthe de Rossini. En effet, dans cet opéra, les Grecs sont assiégés par les musulmans. Après avoir subi les assauts des ennemis et perdu tous ses combattants, la ville de Corinthe disparaît, ravagée par un immense incendie. On lit dans « L'électeur libre » du 13 décembre 70 « Corinthe a été prise, Paris n'aura pas le même sort ». La comédie française sont les seuls à garder une certaine régularité. Néanmoins, de très nombreux théâtres, salles de concert et de cafés-concerts proposent des séances plus informelles, qui sont à la fois dramatiques, musicales et littéraires. Ce sont des espèces de concerts-spectacles, composés d'ouvrages ou de fragments d'ouvrages dramatiques, agrémentés d'intermèdes lyriques, de récits de poésie patriotique et souvent accompagnés de conférences et d'allocutions plus ou moins familières sur des sujets de circonstances. Tous les artistes présents à Paris se font un plaisir et un devoir d'offrir leur concours et de participer. La lecture des Châtiments de Victor Hugo, ouvrage gracieusement offert par l'auteur revenu d'exil dès la chute de Napoléon III, devient un incontournable.
Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait les clairons à leur poste gelés, restés debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus mêlés aux flocons blancs pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombre sur le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentant mourir, on était seul.
Parmi toutes les manifestations parisiennes au bénéfice d'œuvres charitables pendant le siège de Paris, certaines restent dans les mémoires en raison de leur magnificence, comme celle organisée par le romancier Arsène Housset dans son hôtel particulier. Théodore de Banville raconte que le beau monde présent ce soir-là avait payé ses places en beaux louis d'or. Quelques dames, précise-t-il, ont jeté dans l'aumônière celle-ci un diamant, celle-là une perle. Le buffet même y était payant. Le thé y était coté 10 francs dans une tasse de Chine et 20 francs dans une tasse de vieux Sèvres. Et comme le programme avait averti qu'on ne rendrait pas la monnaie de la pièce, personne ne voulait payer autrement qu'avec de gros billets de banque. Il était là le tout Paris des grands jours, qui n'avait rempli ses poches que pour les vider au profit des ambulances. Bien sûr, on a mélangé toutes sortes de réjouissances, des poèmes, une pièce de théâtre, des entractes improvisés, une demoiselle qui chante dans toutes les langues du monde, et pour la musique, l'orchestre et les enivrantes valses d'Olivier Métra. L'hiver 1870-71, comme par un fait exprès, est particulièrement froid. Tout vient à manquer pour les plus pauvres. On a coupé les arbres du bois de Boulogne et on se chauffe mal au bois vert. Le 1er janvier 71, une Parisienne aisée écrit : « Je reçois des bonbons des cartes, deux jolis morceaux de fromage enveloppés de papier doré, un petit pot de beurre, trois œufs frais dans un admirable nid de paille. Malgré de si belles étrennes, quel jour de l'an ! Nous sommes assiégés depuis plus de 100 jours. L'écrivaine Juliette Adam, à Paris pendant le siège et parmi les mieux lotis, nous donne un aperçu de quelques moments plutôt particuliers. « J'avais conquis, écrit-elle, à la boucherie anglaise hier à tour de bras, au milieu d'une bousculade inénarrable, un morceau d'éléphant. Chair appétissante, rosée, ferme, d'un grain très fin, avec de petits chinés du blanc le plus pur. J'appris par le boniment du boucher, un vrai boniment très spirituel, comique à se tordre, étant donné la marchandise qu'il annonce et les animaux du jardin d'acclimatation et des ménageries qu'il débite, que mon morceau d'éléphant faisait partie d'un tout ayant eu pour nom Castor. J'invitais Louis Blanc et son frère Charles à essayer de ce Castor, sur le mérite et sur la saveur duquel nous ne cessâmes de nous étendre durant tout le dîner. Charles Blanc avait une loge pour l'opéra. On y donnait Le désert de Félicien David. La salle de l'opéra, poursuit Juliette Adam, n'est plus chauffée depuis longtemps. Elle est tristement éclairée par quelques lampes, par des bougies. On n'y joue qu'au bénéfice d'artistes pauvres ou appauvris. On gelait. Et ce désert si chaud, où le soleil verse tant de rayons, où la lumière et la couleur éblouissent, où le sable brûle, me causait par le contraste un tel malaise d'esprit, une telle souffrance nerveuse, que je priais mon mari de me ramener à la maison. Nos amis, qui mouraient aussi de froid, revinrent avec nous se chauffer à notre pâle feu de bois de bateau. Oh. Le désert de Félicien David a été chanté à plusieurs reprises pendant le siège de Paris et le chant du muezzin bissé à chaque fois. Au mois de janvier 1871, les conditions de vie des Parisiens se dégradent encore. Ils n'ont pas dormi depuis 10 jours, le bombardement est effroyable, écrit un témoin. Mais ils sont déterminés, ils veulent tenir bon, quoi qu'il en coûte. Ils protestent contre le manque d'initiative et d'efficacité du gouvernement. Les musiciens continuent à organiser des concerts de charité. Le 27 janvier, veille de l'armistice, on annonce que tous les dimanches, dorénavant, seront exécutés au Théâtre italien, messe solennelle de Rossini, requiem, stabat et oratorio des meilleurs maîtres par l'orchestre et les chœurs du théâtre. Kyrie de la petite messe solennelle de Rossini, l'ensemble vocal Michel Picmal, Emmanuel Mandrin à l'harmonium et Raymond Alessandrini au piano sous la direction de Michel Picmal. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Catherine Dereté pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.